Que Dieu vous bénisse, vous allez entendre le message de la perfection prêché le 19 avril 1957 par notre précieux frère et prophète William Marion Branham. Et d'être ici pour adorer avec vous. Et maintenant, juste avant le message, j'ai mon bon ami ici sur l'estrade ce soir, le Dr. Lee Vail de la Première Église Baptiste de Lima, Ohio, qui était l'un de ceux qui parrainait la réunion de Lima. Je lui ai demandé, en venant ici ce soir, s'il pouvait dire un mot à l'Assemblée, peut-être, en rapport avec la réunion de Lima, pour un moment ou deux. Et je suis heureux de vous présenter ce soir le Dr. Lee Vail, un autre baptiste qui a le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi, frère Vail. Tout cela était assez fort pour un pasteur baptiste, n'est-ce pas? Bien, nous sommes très heureux d'avoir Frère Vail avec nous. Et les portes sont certainement ouvertes pour qu'il revienne nous rendre visite à tout moment où il le pourra. Maintenant, ce soir, demain soir, c'est la mise au tombeau du Seigneur Jésus. Dimanche matin, c'est le service du lever du soleil à 6 heures et je crois que le frère a annoncé ce qui va suivre la réunion. Maintenant, prions un instant. Seigneur béni, ta parole est vérité et nous sommes reconnaissants pour ces hommes qui la manient sans peur, comme ils la donnent aux gens. Et comme nous ouvrons la Bible ce soir ou que nous en tournons les pages, puisse le Saint-Esprit béni venir et ouvrir la parole d'intelligence pour nous. Par Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. Cette grande soirée que nous célébrons de la crucifixion de notre Seigneur béni, j'aimerais lire ce soir de ses propres lèvres précieuses les paroles qu'il a faites écrire dans son livre. Dans Matthieu, au chapitre 4, nous et les versets 47 et 48, nous lisons ceci. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Mais soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et ce soir, nous avons annoncé que nous allions parler de la perfection. Maintenant, nous, ça semble être un texte très étrange pour le soir de la crucifixion de notre Seigneur. Mais aujourd'hui, peut-être, vous avez écouté la radio et entendu les différents messages et les messagers, la façon dont ils ont présenté ce grand jour terrible où notre Seigneur est mort pour les péchés de ce monde. Alors, j'ai donc choisi ce soir de prendre un chemin différent pour y arriver, afin que ce soit un peu différent et que cela puisse vous rafraîchir un peu, et que le Saint-Esprit béni inspire la parole maintenant alors que nous faisons l'effort de l'apporter. Dieu exige la perfection. Nous voulons garder cela à l'esprit, qu'il n'y a rien qui soit à moitié, qui peut aller dans la présence de Dieu. Cela doit être parfait. Notre adoration, tout. Bon, dans le jardin d'Éden, Dieu avait Adam et Ève dans le jardin. Et ils ont péché et transgressé les lois de Dieu en péchant par désobéissance. Et quand il y a transgression, la désobéissance est la transgression de la loi. Et la loi de Dieu, puisqu'il est saint, totalement pur et saint, c'est pourquoi aucune trace d'impiété ne peut se tenir dans sa présence. Alors, si le péché est venu dans le monde par la transgression, alors le péché doit être réglé avant que le pécheur puisse venir dans la présence de Dieu. Maintenant, s'il n'y a pas de loi, alors il n'y a pas de justice. Mais la loi exige, ou la justice exige une loi. Et la loi, quand elle est appelée, elle projette la justice. Or, selon la loi, aucune chair n'est sauvée. Maintenant, la loi ne peut pas nous sauver. La loi est simplement la chose qui nous a mis en prison, mais elle n'a aucune puissance rédemptrice. La loi nous a seulement montré que nous étions des pécheurs et nous a condamnés. C'est ce que la loi doit faire. Elle doit apporter la condamnation ou vous montrer où se trouve votre erreur. Donc, la loi en elle-même ne pouvait pas sauver. Elle ne pouvait que poursuivre en justice. Et Dieu étant saint et juste, il devait avoir une poursuite. Il a dû poursuivre le pécheur parce qu'il avait dépassé les limites de la grâce et était devenu un citoyen qui enfreignait la loi. Alors, il fallait traiter avec lui. Et toute loi a une sanction, car la sanction de la transgression de la loi de Dieu, c'est la mort. Et cela devait projeter la mort sur la race humaine. Et toute la race humaine est sous la sanction de cette loi. Maintenant, lorsqu'Adam et Ève ont péché, il n'y avait aucun moyen, aucun autre remède pour qu'ils puissent revenir dans la présence de Dieu, sauf si ce péché était réglé. Et aucun homme ne peut commettre un péché de quelque type que ce soit, peu importe s'il est petit ou grand. Ce péché en particulier doit être réglé avant que celui qui l'a commis puisse revenir dans la présence du Dieu saint. Ainsi donc, lorsqu'Adam et Ève ont péché et avaient transgressé la loi, ils étaient sujets à la mort. Et la loi devait être exécutée. Par conséquent, elle a mis toute la race humaine sous la peine de mort. Maintenant, si nous pouvons nous arrêter quelques instants maintenant dans notre manière de penser et regarder ce grand tableau et nous rappeler que chaque personne ici est incluse dans ceci. Tout homme et toute femme, tout enfant est inclus dans la sanction de mort par la transgression du premier de la race humaine, Adam. Par sa transgression, chacun d'entre nous est tombé victime du péché. Et le péché doit être réglé. Et ainsi, Dieu, dans sa grande infinité et son grand amour, la loi devait séparer le pécheur de son Créateur. Il était alors anéanti et totalement anéanti. Il n'y aurait aucun moyen pour lui de revenir un jour à moins que ce péché ne soit réglé. Et il serait alors très facile de croire à l'anéantissement total d'un pécheur à la fin. Car il est complètement à jamais séparé de la présence de Dieu. Maintenant, remarquez ce péché. Et combien Dieu, qui est juste, et il ne pouvait rien faire d'autre que d'être juste, car il est la ressource de toute justice. Alors, il n'y aurait rien d'autre à faire pour lui que d'infliger la peine pour cette transgression. et la sanction était la mort. Car il a dit, « Le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. » Bon, c'est un sombre tableau que nous avons ici. Mais si nous revenons un peu plus haut et que nous découvrons les attributs mêmes de Dieu, la Bible nous dit clairement que Dieu est amour. Mais pourtant, étant amour, il doit être juste. Ainsi, l'amour ne signifie pas seulement une chose que l'on peut flatter et avec laquelle on peut jouer. L'amour est la justice de Dieu. Ainsi, quand Dieu a vu que ses enfants avaient transgressé sa loi et qu'ils devaient subir la mort, alors l'amour souverain est intervenu pour pourvoir d'un moyen. Car Dieu a vu que ses enfants devaient être absolument, totalement anéantis de sa présence. Il n'y avait rien d'autre à faire, car ils avaient transgressé sa loi et la peine de sa loi était la mort. Et puis l'amour de Dieu s'est élancé pour ses sujets. Et quand l'amour divin est projeté, la grâce souveraine produit l'objet de l'amour. Et Dieu, par préscience, comme il aimait tellement sa race, même avec la sanction, il a fait en sorte que la mort d'un substitut ait lieu dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'il a substitué une créature innocente, un petit agneau qui ne connaissait pas le péché, et cela a servi de substitut pour œuvrer et mourir à la place du pécheur coupable. Et c'était un agneau immolé pour préserver la vie de ses sujets. Tout au long de l'Ancien Testament, ils ont offert le sang des agneaux et des boucs, des brebis, des taureaux et des génisses, la mort d'un substitut. Mais dans toute la grande économie de Dieu, il y avait dans son esprit le véritable objet à venir qui viendrait. C'était des ombres du véritable objet qui devait venir. Et le véritable objet à venir était son Fils unique. Tous les agneaux qui sont morts n'étaient qu'une ombre. Et une ombre n'est que le côté négatif d'un objet, et il ne parlait que du calvaire qui allait venir. Maintenant, pour avoir une image de cela, allons dans nos Bibles, dans le livre des Hébreux, et prenons ici ce que Paul, le grand apôtre, qui parle, qui essaie de séparer ces choses pour nous. Dans le chapitre 10 du livre des Hébreux, nous lisons ceci. Et j'aime tellement la parole. La parole est la vérité. Et j'aime la lire devant mon assemblée, car je sais qu'au jugement, je me tiendrai avec eux. Et je dois en rendre compte. Donc, si je l'apporte de la parole, alors je ne serai pas coupable, parce que c'est la parole et Dieu est responsable de sa parole. Nous voyons tellement aujourd'hui d'évangélistes et ainsi de suite se développer auprès de personnalités. Oh, c'est une chose honteuse! Et nous découvrons en allant dans les églises, nous allons à l'église et vous trouvez un certain pasteur. Il a une petite façon d'agir particulière, une petite émotion. Si vous n'y portez pas attention, toute l'assemblée va prendre cet esprit. S'il est juste un peu émotif, ou s'il balance la tête, ou quelque chose de bizarre, eh bien, toute l'Église va faire la même chose. Et nous avons aujourd'hui dans nos églises modernes, au point où ce sont des sensations et des petites choses comme ça, il y a une telle confusion. Mais oh, mes frères bien-aimés, s'il y a un temps où nous devrions être en ligne avec la parole, c'est aujourd'hui. Vous voyez, je ne voudrais pas me tenir au jugement en sachant que j'avais une petite révélation un peu particulière, non fondée, et que j'ai induit les gens en erreur. Je ne veux pas qu'ils aient mon esprit ou mes manières, mais je veux qu'ils aient l'Esprit de Dieu par la parole de Dieu qui produit la vérité. Aussi, en cette grande occasion ce soir, j'aimerais lire un extrait de la parole éternelle de Dieu. Maintenant, nous réalisons que la loi a existé pendant de nombreuses années. Mais la loi n'aurait jamais pu enlever le péché. Comme je l'ai dit dans le passé, ce n'était qu'une prison. C'était le grand détective qui vous disait ce que vous aviez fait, mais qui n'avait aucun remède pour vous délivrer. Il vous mettait dans la maison de pressurgage, mais il n'y avait pas de rédempteur pour vous en faire sortir avec ça. Il ne faisait que vous emprisonner pour vous faire savoir que vous étiez un pécheur. Mais remarquez maintenant dans Hébreux, au chapitre 10, comme nous le lisons, « En effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation. » Souvenez-vous, c'était l'ombre d'une image à venir. Une ombre ne fait qu'introduire qu'il y a une image qui fait l'ombre. Une ombre des choses à venir et non l'image elle-même. Remarquez, des choses, l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qui ont été offerts perpétuellement, amener les assistants à la perfection. Bon, Dieu, au commencement, exigeait la perfection. Jésus, quand il est venu sur la terre, a dit, « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Et la loi qui a une ombre des choses à venir ne pouvait jamais rendre l'adorateur parfait. Vous voyez le tableau? Maintenant, revoyons ça pour être sûr de ne pas le manquer. Dieu exige une sainteté parfaite. Personne ne peut se tenir dans son image avec la moindre parcelle de péché. Jésus a témoigné de la même chose et a dit, « Soyez parfaits, tout comme votre Père céleste est parfait. » Et la Bible dit que la loi ne pouvait jamais, avec ses sacrifices, rendre l'assistant parfait. Ainsi, la loi ne pouvait rien rendre parfait. Elle n'était qu'un indicateur. Ces sacrifices faits chaque année ne pouvaient jamais rendre l'adorateur parfait. C'est pourquoi personne sous la loi ou qui respectait les lois ou sous les ombres ne pouvait être parfait. Car, verset 2, « Autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir? » S'il y a quoi que ce soit que je peux faire pour me rendre parfait, dans la présence de Dieu, alors Christ n'avait pas à mourir pour moi. S'il y a quoi que ce soit que vous pouvez faire qui vaudrait quelque chose dans la présence de Dieu, alors Christ est mort en vain. Ce n'est pas l'observation de la loi, aucune de vos idées légalistes, rien de votre propre sainteté, rien que vous pourriez arrêter de faire, arrêter de mentir, arrêter de voler, arrêter de fumer du tabac, arrêter d'aller au cinéma, vous êtes encore perdu. Rien ne peut le faire. Joindre des églises, des rituels, des cérémonies, des baptêmes, des ordres religieux, la lecture de credos, réciter des prières, toutes ces choses ne vaudraient rien. Vous êtes perdu. Vous ne pouvez rien faire en vous-même, car vous êtes un pécheur sous la condamnation. Il n'y a aucun moyen en vous-même, ou de credo, ou de quoi que ce soit, que vous puissiez faire ou penser par vous-même qui vaudrait quoi que ce soit dans la présence de Dieu, parce que vous êtes un pécheur pour commencer. Et la Bible déclare que nous sommes tous nés dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu dans le monde en disant des mensonges. Et Dieu ne pouvait pas prendre aucun homme pour mourir pour l'autre, car l'un est aussi coupable que l'autre. Dans la présence de Dieu, l'archevêque né dans ce monde était aussi coupable que le plus vil des ivrognes. L'un ne pouvait pas faire l'expiation pour l'autre. Il a donc pris la vie innocente d'un animal, un petit agneau. Et dans l'Ancien Testament, la loi était que lorsqu'un homme péchait, il amenait l'agneau à l'autel. Disons que s'il transgressait l'un des commandements, il amenait l'agneau et le déposait sur l'autel. Il posait ses mains sur l'agneau et il confessait ses péchés, qu'il avait tort et qu'il savait qu'il était coupable La loi exigeait la mort, et il amenait l'agneau à sa place. Et quand la gorge du petit animal était tranchée, et qu'il commençait à donner des coups avec ses petites pattes et à bêler, si vous avez déjà vu un agneau se faire abattre, quel cri pitoyable! Le pauvre petit être qui essaye de bêler avec sa petite veine jugulaire coupée, et comme il donne des coups de patte et tremble et se redresse, puis tremble de nouveau et bêle, et le sang qui jaillit baigne sa petite laine et les mains de l'adorateur. Et alors que l'adorateur prend conscience d'avoir commis l'adultère, d'avoir menti, volé, quel que soit ce dont il était coupable, ou même d'avoir eu une mauvaise pensée, quelle que soit la moindre ombre, il était coupable. Car c'était sa nature. Il était une personne coupable, peut-être pas par désir, mais par nature, il était coupable. Et il devait reconnaître que ce petit agneau innocent mourait à sa place. Et il avait de la peine pour cette petite chose. Mais l'homme, dès que l'agneau était finalement mort, avec le sang de l'agneau sur les mains, Il quittait le bâtiment avec le même désir dans son cœur qu'il avait au début. Pourquoi? Parce que la vie qui était dans le petit agneau, la vie est dans le sang. Votre vie est dans votre sang. Nous savons ça. Et la vie dans le sang de l'agneau était une vie animale. Donc, quand ces petits globules de sang étaient brisés et que la vie sortait de l'animal, elle ne pouvait pas revenir sur l'adorateur parce que l'adorateur était un être humain. Le sang servait de couverture, mais il ne pouvait pas faire l'expiation parfaite. Car l'homme quittait le bâtiment avec le même désir de péché qu'il avait au départ. Mais en faisant ceci, il attendait avec impatience le moment où un agneau parfait viendrait. Et il le faisait par un holocauste, parce que c'était le seul moyen qu'il connaissait. Alors, vous voyez, quand le sang coulait et que la vie était sortie de l'animal, elle ne pouvait pas revenir sur l'homme, car l'une était animale, l'autre était humaine, un animal innocent à un homme coupable. Mais, oh, un jour, il y a 2000 ans, l'agneau de Dieu est né dans une petite crèche à Bethléem. Et il a été conduit comme une brebis à l'abattoir. Il y a quelque 1900 ans, et cet après-midi à 3 heures, il est mort. Et l'agneau de Dieu, sans tache et irréprochable, était suspendu à la croix du calvaire et est mort pour chaque pécheur. Maintenant, quand l'adorateur vient à cet agneau par la foi, et c'est un autre type d'agneau. Ce n'est pas un agneau comme les autres. Nul ne peut venir à cet agneau si Dieu ne l'attire premièrement. Vous voyez la souveraineté de Dieu? Oh, j'espère que cela descend profondément maintenant. Regardez. Dieu savait qu'il avait des brebis dans ce monde. Il savait qu'il allait avoir des gens à sauver. Et son amour a regardé en bas et a vu ceux qui seraient sauvés. Donc, par préscience, il a prédestiné une église à le rencontrer là-bas, sans tache ni ride. Et si Dieu exigeait une église sans tache ni ride, il devait avoir quelque chose pour la rendre ainsi. Il ne pouvait pas l'exiger. Sa justice, ses jugements ne pouvaient pas le laisser exiger une telle chose s'il n'y avait pas un moyen d'y arriver. Et l'homme ne peut pas le faire par lui-même. Il est un échec total. Dieu lui a laissé voir cela à travers la loi, à travers les juges et à travers tout l'Ancien Testament. Il a envoyé les prophètes, il a envoyé un homme. Et ils ont découvert que tous ont échoué. Alors Dieu, par sa grâce souveraine, a envoyé des portails de la gloire, son Fils unique, pour prendre notre place. Souvenez-vous, s'il avait dit au pape de Rome de la prendre, il n'aurait pas pu le faire. S'il avait dit à l'archevêque de Canterbury de le faire, il n'aurait pas pu le faire. S'il avait fait appel au très saint révérend père ou évêque du monde, il n'aurait pas pu le faire. Il aurait été tout aussi rejeté que Judas Iscariote l'a été. Il ne pouvait pas le faire car il était né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges et avait besoin d'une expiation lui-même. Alléluia! Mais quelqu'un est venu des portails de la gloire. Aucun autre, pas un homme bon, ni un juif, ni un gentil. Il n'était rien de moins que le Dieu Tout-Puissant caché dans la chair humaine. Il est venu lui-même offrir son propre sang, car cela n'est pas venu par le sexe. Le sexe n'avait rien à y voir. Mais il a couvert une vierge de son ombre et a fait naître d'une cellule de sang qu'il a créée lui-même, celui qui est innocent. Alors, mon salut, le vôtre ce soir, ne dépend pas des mérites de nos propres actes. Il dépend de la grâce incontestable et souveraine du Dieu Tout-Puissant qui nous a choisis en lui. Certainement, je ne pourrai jamais être parfait et vous ne pourrez jamais être parfait. Et nous ne prétendons pas être parfaits, mais nous avons cette seule consolation, à savoir que notre foi repose sur un sacrifice parfait qui a déjà été accepté. Alors comment savons-nous que nous recevons cela? Lorsque l'adorateur pose ses mains par la foi sur le corps du Seigneur Jésus et qu'il ressent la terreur du péché et la moquerie du crachat sur son propre visage, qu'il sent les gémissements de Gethsémani, les agonies du calvaire et qu'il sait qu'il est coupable et confesse ses péchés correctement. Ô Seigneur béni, je suis coupable. Et je n'ai pas d'autre moyen que toi pour m'aider. Et par la foi, tu m'invites. Le Saint-Esprit est venu et m'a invité à venir. Et maintenant, par la foi, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Cette vie qui est sortie de lui au calvaire, appelée le Saint-Esprit, qui était caché dans la cellule de sang du Seigneur Jésus, revient sur l'adorateur et le baptise du Saint-Esprit dans le corps de Christ. Et il est déjà jugé. Vous n'avez plus à vous inquiéter du jugement. En me tournant et en regardant ce petit crucifix, j'ai réalisé que ça représentait son corps. Et maintenant, ce corps a déjà été jugé. Dieu ne peut pas le juger avec justice de nouveau, car il est déjà jugé. Dieu a frappé ce corps des jugements de la mort. Et aussi longtemps que je peux trouver un moyen d'être caché dans ce corps, son jugement a été frappé pour moi et pour vous. Nous sommes libres. Romains 8, 1 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. » Voilà, aucune condamnation. Quoi qu'il arrive, vous êtes cachés sous le sang. Encore une fois, comment entrons-nous dans ce corps? 1 Corinthiens 12, 13 dit que par un seul esprit. Comment est-ce que l'esprit vient? Par le sacrifice. Où se trouvait l'esprit? Dans le sang. Pourquoi est-ce que l'animal ne pouvait pas revenir? C'était un animal. L'esprit animal ne pouvait pas venir sur l'esprit humain et y faire quoi que ce soit, car l'esprit humain était d'une lignée de vie plus élevée que l'animal. Mais l'esprit d'aucun autre homme ne pouvait revenir. Si vous avez l'esprit d'un ancêtre, c'est du spiritisme. Mais Dieu lui-même est venu pour que son propre esprit, qui est la plus haute lignée d'esprit qui existe, puisse revenir sous la forme du baptême du Saint-Esprit sur l'adorateur par le sang de Christ et le prendre dans ce corps. Il est en sécurité. Regardez, le sang des taureaux et des boucs ne fonctionnait pas, vu qu'il était faible. Commençons maintenant à lire vers le verset 12. Très bien. Le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas fonctionner ni faire l'expiation. Observez. Mais cet homme, quel homme? L'évêque? Non. Le pape? Non. Mais cet homme, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, une fois pour toutes, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt pour la parole? Écoutez ceci, puis je veux que vous le laissiez pénétrer. Écoutez bien, car par une seule offrande, pas d'année en année, pas de réveil en réveil, pas de réunion en réunion, pas de jour en jour, mais par une seule offrande, il a amené à la P-E-R-F-E-C-T-I-O-N. Eux l'ont fait, lui l'a fait. Par une seule offrande, il a amené à la perfection. C'est l'exigence de Dieu pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voilà. C'est la réponse à la mort de Christ. C'est la réponse au calvaire. Il a absolument, avec son propre sang, racheté nos péchés et a amené à la perfection pour toujours ses croyants. C'est pourquoi, en Christ, nous sommes irréprochables, amenés à la perfection dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Nous sommes des personnes qui vivent en dessous de nos privilèges, avec nos propres doctrines. On nous a tous enseigné qu'on devait s'élever jusqu'à un certain endroit, qu'on devait faire une certaine chose. Non, mon frère, ce n'est rien que tu aies fait, c'est ce que Dieu a fait pour toi. Nous le sommes maintenant. Si nous sommes justifiés par la foi, nous sommes amenés à la perfection pour toujours dans la présence de Dieu. Alors Jésus a dit, « Soyez donc parfaits. » Puis cela a amené à la perfection pour toujours. Dieu, par la mort de Christ, il y a 1900 ans, aujourd'hui, a amené le croyant à la perfection qu'il a vue d'avance avant la fondation du monde pour toujours. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Il a amené à la perfection ses croyants. Regardez, maintenant revenons au premier verset. La loi qui possède une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation de ces choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qui ont été offerts perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Regardez à la perfection, c'est ce que, dont nous parlons. Autrement, n'aurait-on pas dû pas cesser de les offrir? Parce que celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'aurait plus eu aucune conscience de son péché. Que voulez-vous dire? Le mot « conscience » ici et la bonne interprétation est « désir ». Et si un homme vient, l'adorateur, correctement devant Christ, qu'il voit sa souffrance et qu'il s'offre à Christ et dit, « Ô Seigneur Dieu, il n'y a rien en moi qui puisse faire l'expiation, mais je dépends entièrement de toi. » Alors ce Saint-Esprit vient dans le cœur humain, la question même du péché est réglée pour toujours. Car tout désir de péché a été retiré de vous. Car si la loi avait pu faire cela, ses sacrifices n'auraient pas eu à cesser. Mais comme elle ne pouvait pas le faire, Christ devait mourir pour nous rendre parfaits. Mes amis, il y a tant de choses que nous pourrions dire ce soir à propos de la perfection. Nous essayons toujours de crever les yeux des autres pour nous rendre un peu plus sains qu'eux. Le son. Mais si l'on ne regarde que l'image, c'est seulement par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Ici, il y a quelque temps dans l'Ohio, j'ai appris une leçon de manière dure. Je tenais une réunion dans l'Ohio et je séjournais à la campagne. À cause des foules, je ne pouvais pas rester en ville. Nous mangeons habituellement dans un petit restaurant Dunkard et de six aimables petites serveuses habillées décemment et aussi propres qu'elles pouvaient l'être, très distinguées, nous servaient. C'était un petit coin de paradis de manger dans un tel endroit. Leur cuisine était impeccable. Et le dimanche, ils fermaient et allaient à leur église. J'ai eu un peu faim, j'allais prêcher dimanche après-midi. Et je suis allé dans un petit restaurant bien ordinaire, juste un petit restaurant américain ordinaire pour manger quelque chose. Et quand j'ai franchi la porte, qu'est-ce que j'ai entendu sinon le son d'une machine à sous? Il y avait là un homme de mon âge, qui était probablement un homme marié, avec son bras autour d'une femme qui jouait aux machines à sous. Notre loi même, la protection de notre justice, de nos biens, était là, violant une chose qui était censée protéger. Parce que c'est illégal de jouer à des jeux d'argent dans l'Ohio, de jouer à une machine à sous. Et je me suis tourné et j'ai regardé vers l'arrière du bâtiment. Il y avait une bande d'adolescents et un de ces disques de rock'n'roll dans la machine qui jouait. Une jeune femme d'environ 18 ans qui avait très clairement l'anatomie d'une femme. Mais elle était là, avec sa robe qui descendait bas en avant. Et un de ces jeunes hommes avait ses mains sur la fille où il n'avait rien à faire. Et il fumait et buvait. Et j'ai pensé, « Oh Dieu, comment peux-tu supporter ça? » Et j'ai regardé à ma droite quand j'ai entendu quelqu'un faire un gros grognement. Il y avait là assis une femme âgée, probablement de 60 ou 70 ans. Elle portait ses vêtements vulgaires à peu près à la moitié des membres et sa pauvre vieille chair ridée était aussi flasque que possible. Et elle portait du maquillage pour les lèvres et un grand truc violet peinturé sur le côté de son visage, une petite paire de chaussures, des sandales avec des ongles d'orteils peinturés violets, les ongles de ses mains peinturés violets, et ses cheveux étaient coupés très courts, puis frisés et teints en bleu. Et je l'ai regardé. Et de l'autre côté de la table, deux hommes étaient assis là, ivres. L'un d'eux, c'était l'été, portait un grand manteau de l'armée avec une écharpe grise autour du cou et le visage couvert de barbe qui rotait et continuait. Et ils se sont excusés, l'homme l'a fait, auprès d'elle, et a commencé à se diriger comme ceci vers la salle de bain. Je suis resté là et j'ai dit, « Mon Dieu, pourquoi ne détruis-tu pas tout cela? » Pourquoi ne l'engloutis-tu pas sous la terre? J'ai dit, est-ce que ma petite Sarah et Rebecca vont devoir grandir parmi ce genre de choses? J'ai dit, comment peux-tu, Dieu, dans ta grande sainteté, supporter de même regarder une telle chose sans envoyer un tremblement de terre pour l'engloutir? Et comme je me tenais là à condamner cette femme, comme je le faisais, j'ai reculé derrière la porte. J'ai senti l'Esprit de Dieu venir à moi et je me suis placé derrière la porte. Et j'ai vu comme quelque chose qui tourbillonnait. Et quand c'était dans la vision, c'était le monde qui tournait et tournait. Et comme je regardais autour du monde, il y avait un fil cramoisi autour du monde. Et en m'approchant du monde, je me suis vu, petit garçon, en train de faire des choses que je ne devrais pas faire. Peut-être pas comme ça, mais c'était péché. Et chaque fois que je faisais quelque chose, je voyais cette grande ombre noire monter vers le ciel, et Dieu m'aurait tué à cet instant même. Puis j'ai vu se dresser entre moi et Dieu ce sacrifice parfait. Je l'ai vu se tenir là avec les épines sur sa tête et le crachat sur son visage. Et chaque fois que mes péchés commençaient à se diriger vers Dieu, il les attrapait comme le pare-choc d'une voiture. Il me protégeait de la mort. Et chaque fois que je faisais quelque chose de mal, Dieu m'aurait tué. Certainement, sa sainteté l'exige. Sa loi l'exige. Et chaque fois que je fais quelque chose ou que vous faites quelque chose, le sang de Jésus-Christ agit comme un pare-choc. Et j'ai vu que ce fil cramoisi voulait dire cela, alors que le sang protège encore la terre. Et comme j'étais là à regarder, je me suis rapproché un peu plus de lui alors que je l'ai remarqué et je pouvais l'entendre dire, « Père, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. » J'ai baissé les yeux et il y avait là un livre. Il y avait là un ange qui tenait le registre et à ses côtés. Et chaque fois que je péchais, c'était inscrit dans le livre et mon nom était dessus. Et j'ai réalisé qu'un jour, que ce fil de sang serait enlevé et que je devrais me tenir dans la présence de Dieu avec ma vie de péché. Mais j'ai vu par sa miséricorde qu'il retenait mon jugement. Je suis allé vers lui humblement, je me suis agenouillé, j'ai dit, « Ô Jésus, toi le Fils de Dieu, je suis indigne de venir en ta présence. » Mais veux-tu, s'il vous plaît, me pardonner pour ce que j'ai fait? Il a touché son côté de sa main, a pris le vieux livre et a écrit, pardonné, déçu, l'a jeté derrière lui et mes péchés avaient disparu. Puis il m'a regardé d'un regard sévère. Il m'a dit, maintenant je t'ai pardonné, mais toi tu veux la condamner? Puis j'ai vu ce que ça voulait dire. Lorsque je suis sorti de la vision, je suis allé la voir. J'ai dit « Bonjour ». Elle buvait, elle m'a regardé et a dit « Oh, bonjour ». J'ai dit « Puis-je m'asseoir ?» Elle a dit « J'ai de la compagnie ». J'ai dit « Je ne le disais pas dans ce sens-là, madame. Je veux juste vous parler une minute ». Elle a dit « Assoyez-vous ». Et j'ai dit « Madame, il y a quelques minutes, je me tenais derrière cette porte ». J'ai commencé à lui raconter. Et quand j'ai commencé à regarder, les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Et elle m'a dit, j'ai dit, « Madame, vous ne voulez pas faire ces choses-là. Jésus est mort et les jugements de Dieu sont retenus par son sang. Vous ne voulez pas faire ça. » Elle a dit, « Non, monsieur. » Elle a dit, « Mon père était un diacre à l'église. J'ai grandi dans un foyer chrétien. Mon mari et moi étions membres fondateurs et nous vivions une vie chrétienne. » Elle a commencé à me dire qu'après sa mort, elle avait deux jeunes filles et elle s'est égarée. Et comment les filles l'avaient quittée et elle avait gâché sa vie. Et elle pensait qu'il n'y avait plus d'espoir pour elle. Mais j'ai dit, « Dieu soit miséricordieux. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. » Et elle a dit, « Êtes-vous le révérend Branham de là-bas? » J'ai dit, « Oui. » Elle a dit, « J'ai honte de moi d'être assise ici comme ça. » Elle a dit, « Pensez-vous qu'il y a une chance pour moi? » J'ai dit, « Jésus a les bras tendus. Il attend que vous veniez, madame. » Et les autres ont commencé à porter attention. Et j'ai dit, « Voudriez-vous venir sur ce plancher avec moi? » Elle a dit, « Oui, monsieur. » Je l'ai prise par la main, j'ai dit, « Vous avez à peu près l'âge de ma mère. Voudriez-vous vous agenouiller ici avec moi, sur le plancher? » Et là, sur ce plancher, nous avons transformé cet endroit cet après-midi-là en une réunion à l'ancienne. Et Dieu a sauvé cette femme par sa grâce. Elle s'est habillée et est venue à la réunion et pour autant que je sache, elle vit une vie de chrétienne ce soir. Qu'est-ce que c'est? Oh, Dieu exige la perfection. Il exige votre repentance. Il exige votre loyauté envers lui. Mais il cherche ce soir, peu importe combien vous avez péché, que ce soit peu ou beaucoup, vous êtes quand même un pécheur. Et vous ne pouvez pas entrer autrement que par Jésus-Christ, le sacrifice de Dieu entièrement suffisant. Et en lui, vous êtes amené à la perfection pour toujours. Pensez-y. Ce n'est pas quelque chose que vous faites. Ce ne sont pas de nouvelles pages que vous tournez. Ce n'est pas une nouvelle vie que vous commencez. C'est une confession de vos torts et la grâce de Dieu pour vous. Cela vous amène à la perfection et alors vous êtes amené à la perfection en Jésus-Christ. J'ai confiance que ce soir, mon ami, alors que nous sommes ici en ce grand moment crucial où des décisions doivent être prises après avoir entendu cette histoire, vous ne l'avez peut-être jamais entendue auparavant, mais vous ne pouvez pas sortir par ces portes la même personne que lorsque vous êtes entré. Vous devez sortir mieux ou pire. Et pendant que nous inclinons la tête un instant, je veux que vous y réfléchissiez sérieusement. Qu'en est-il de votre âme ce soir? Jésus-Christ est mort pour vous. Vous dites, « Frère Branham, quand je pourrai arrêter de fumer, quand je pourrai arrêter de boire, quand je pourrai redresser cette situation, je vais le faire. » Oh, cela ne sera jamais fait correctement. Vous ne pourrez jamais le faire. Pourquoi ne venez-vous pas comme vous êtes et par la foi aller vers cette source, ce flot coulant de tes blessures? Alors, l'amour rédempteur sera votre thème et le sera jusqu'à votre mort. Pourquoi prendre un substitut? Pourquoi essayer d'entrer par votre Église? Pourquoi essayer de venir parce que vous avez arrêté de boire ou de mentir? Venez par le moyen de la perfection, car par un seul sacrifice, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Comment puis-je être sanctifié? Confessez vos péchés dans la présence du sang de Jésus. Et la vie qui vit de ce sang revient sur l'adorateur et le sanctifie des désirs des choses du monde. Car par ce sacrifice entièrement suffisant, il nous a sanctifiés. Un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Si vous essayez de marcher selon l'esprit et que vous convoitez toujours la chair, le sacrifice n'a pas été suffisamment appliqué sur vous. Mais l'adorateur, une fois purifié, n'a plus aucun désir de pécher. C'était le calvaire. Ce n'est pas un endroit pour vendre des fleurs ou un petit endroit pour faire ceci ou cela. C'était un endroit où Dieu et l'homme étaient réconciliés. C'était un endroit où la paix et la sécurité parfaite ont été apportées à l'humanité. Peux-tu m'accompagner ce soir, mon ami pécheur, au calvaire et par la foi appliquer ce sang à ton âme et laisser le Saint-Esprit venir te sanctifier par son grand sacrifice? Avant de prier, voudriez-vous lever votre main vers Dieu et dire, « Sois miséricordieux envers moi, Dieu, je confesse maintenant tous mes péchés en cette soirée du Vendredi Saint, et je suis reconnaissant pour les grandes souffrances que Christ a subies pour moi. Je renonce maintenant à ma propre volonté, à mes propres motifs et à tout pour te suivre à partir de ce jour et pour toujours. Voulez-vous lever la main et dire, « Souvenez-vous de moi, Frère Branham, dans la prière. C'est la décision de mon cœur. » Y en a-t-il en cette grande soirée? Pendant que nous attendons un instant, ici sur ma droite, il y en a sûrement un par là. Avez-vous honte de vos péchés? Avez-vous honte de ce que vous avez fait? Ce soir, le monde est à la recherche de héros. Et il y a des héros physiquement parlant. Un jour là-bas, en Suisse, alors que la Suisse était en jeu, le petit parti suisse s'était rassemblé dans les champs pour défendre leur économie. La grande armée qui arrivait était trop puissante pour eux. Ils étaient tous entraînés avec de grandes lances et des boucliers. Les Suisses ne pouvaient rien faire d'autre que d'abandonner. Ils étaient acculés contre une montagne. Puis un héros s'est avancé. Quelqu'un devait mourir. Et s'il perdait la bataille, il n'avait rien que de vieilles lames de fossiles et des pierres, des bâtons pour se battre. Alors que l'armée qui arrivait ressemblait à un mur de briques. S'ils étaient conquis, leurs aimables petites femmes se feraient violer, leurs jeunes filles se feraient violer, leurs bébés se feraient tuer, leurs têtes seraient fracassées, leurs maisons seraient détruites, tout serait perdu. Mais à ce moment-là, il y avait un homme dont le nom est trop vite oublié, du nom d'Arnold von Winkler. Il s'est avancé, il a dit, « Homme de Suisse, aujourd'hui, je donne ma vie pour la Suisse. » Il a dit, « Juste au-delà de la montagne là-bas, il y a une petite maison blanche. J'ai une femme et trois enfants qui m'attendent, mais ils ne me reverront plus jamais, car aujourd'hui, je donne ma vie pour la Suisse. » Ils ont dit, « Qu'est-ce que tu vas faire, Arnold von Winkler? » Il a dit, « Suivez-moi et faites de votre mieux avec ce que vous avez. » Et il a regardé l'armée jusqu'à ce qu'il trouve le plus grand nombre de lances. Puis il a levé les mains en l'air, il a couru vers ce grand mur briqueté de lances et a crié, « Faites place à la liberté! Faites place à la liberté! » Une centaine de lances se sont tournées pour arrêter sa charge. Il a ouvert les bras et les a regroupés dans son propre sein, ce qu'il a cloué au sol, et il est mort sur l'extrémité de ses lances. Ces Suisses l'ont suivi avec des massues et des bâtons. Cette grande démonstration d'héroïsme a mis cette armée en déroute, au point que les Suisses les ont battus et chassés du pays, et ils n'ont plus jamais eu de guerre depuis. Allez en Suisse et dites le nom d'Arnold von Winkler. Vous allez voir des larmes couler sur leurs joues. Pourquoi? Il a sauvé leur pays. C'était un grand acte d'héroïsme. C'est rare qu'on s'y compare, et ce n'est jamais surpassé sur cette terre. Mais oh, c'est une petite chose à côté de ce qui s'est passé un jour. Quand la race d'Adam était là, les démons arrivaient de tous côtés. Les prophètes avaient échoué. La loi avait échoué. Le sacrifice des taureaux et des agneaux avait échoué. La nature de l'homme avait échoué. Tout. Et la petite race d'Adam se tenait là, vaincue, dépassée en nombre par les démons, les superstitions, les maladies, les afflictions. Il y en a un qui s'est avancé dans le ciel et qui a dit, « Aujourd'hui, je vais mourir pour la race d'Adam. » Il est venu sur la terre et s'est fait chair. Il a regardé là, parmi les lances, où c'était le plus sombre. Le plus sombre des craintes de l'homme était la mort, et il a pris la mort dans son sein. Et sur le calvaire, il a payé le sacrifice et a crié, « Faites place à la liberté! » Et il crie à son Église, « Prenez ce que je vous ai laissé, mon sang et mon esprit, et combattez avec ce que vous avez. » Nous pouvons conquérir ce soir grâce à cela, mon ami. Vous pouvez chasser le diable de vous, tout vieil ennemi qui est dans votre vie. Il peut être chassé par le sang et l'Esprit de Christ, et vous pouvez vous tenir parfait en sa présence. Christ a tracé le chemin. Pourriez-vous simplement lever votre bras vers lui et dire, « Pardonne-moi. » Que Dieu vous bénisse, frère. Quelqu'un d'autre soit miséricordieux envers moi, Dieu. Je confesse maintenant mes torts. Y a-t-il des membres d'Église tièdes qui vont à l'Église tous les jours et qui essaient peut-être d'être aussi pieux que possible? Mais malgré tout, vous savez que le tempérament et l'indifférence et l'égoïsme, des habitudes qui vous empêchent d'avoir la victoire. Voudriez-vous être purifié par le sang ce soir de tout cela? Car l'adorateur, une fois purifié, n'a plus conscience. Aimeriez-vous lever la main, vous les membres d'Église? Que Dieu vous bénisse, madame. Levez vos mains et dites, frère Branham, souvenez-vous de moi dans la prière. Que Dieu vous bénisse, madame. C'est vrai, c'est une vraie, c'est la vraie chose à faire. Que Dieu vous bénisse là au fond, monsieur. Quelqu'un d'autre, levez la main et dites, sois miséricordieux envers moi, Dieu. Je sais que je professe le christianisme, mais je ne le vis pas. Je sais que je ne le fais pas. Et dans mon cœur, je ne suis vraiment pas en ordre avec toi. Je veux être l'un des élus de Dieu. Je sens dans mon cœur que je le suis, mais je n'ai jamais mis de côté les fardeaux qui m'enveloppent si facilement. Et je veux les mettre de côté ce soir. Et par la grâce de Dieu, je veux le faire. Priez pour moi. Vous voulez lever la main? Que Dieu vous bénisse, madame. Quelqu'un d'autre? Juste encore un peu. Nous attendons. Pendant que nous attendons patiemment, que tout le monde maintenant, avec la tête inclinée en prière, fredonnez doucement ceci maintenant. Il y a une source remplie du sang. Des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce est lavé de tout péché. Et voulez-vous y réfléchir maintenant? N'essayez pas de vous en laver les mains. Christ est sur vos mains. Pilate l'a essayé ce matin vers 6 heures, mais ses mains sont toujours couvertes de sang, coupables de sang. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il est allé en Suisse bien des années plus tard. Il a perdu l'esprit. Il s'est suicidé en sautant dans un étang d'eau. Ce matin, en Suisse, des centaines de personnes vont voir la scène de l'eau bleue qui bouillonne du fond de ce grand étang d'eau. Et ils le font chaque année, c'est une vieille légende. On dit que Dieu a refusé que l'eau lui lave les mains. Frère, peu importe le nombre de fois que vous êtes baptisé, quoi que vous essayez de faire, rien d'autre ne va purifier vos mains sauf le sang de Christ. Dieu l'a refusé et l'eau bleue, après 2000 ans, presque bouillonne encore. Dieu l'a refusé. Votre propre justice ne peut pas purifier vos péchés, rien d'autre que le sang de Jésus. Pensez-y, là. Nous allons prier juste un instant. Je me demande si je peux demander quelque chose ce soir. Quand il était là, dans la salle de jugement de Pilate, ce matin-là, il a dit, « Si mon royaume était de ce monde, je pourrais parler à mon Père, et aussitôt, il m'enverrait 12 légions d'anges. » Quand un seul d'entre eux pourrait détruire le monde, je lui parlerai et 12 légions d'anges seraient à ma disposition. Il aurait pu le faire. Mais il est resté là, doux et humble, pour prendre votre mort et vos péchés. Serez-vous assez reconnaissant pour ce sacrifice ce soir, vous qui en avez besoin et qui avez besoin des bénédictions de Dieu? Vous lèveriez-vous pour cette prière? Levez-vous, vous qui voulez qu'on se souvienne de vous dans cette prière en disant, « Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je suis coupable, j'ai fait des choses mauvaises et je veux maintenant accepter mon pardon par Jésus-Christ. » Voudriez-vous vous lever maintenant? Que Dieu vous bénisse, jeune dame. C'est ça, du courage. Restez debout, là. Voulez-vous me dire que vous avez levé la main et que là, vous n'êtes pas assez sincère pour vous lever? Quel bien l'Évangile vous a-t-il procuré? Oh, on joue avec l'Église, on joue avec Dieu. L'heure est bientôt arrivée. Un de ces jours, une bombe atomique va frapper quelque part par ici, dans l'un de ces grands centrales. Il n'y aura pas une fraction de seconde pour y réfléchir. Il sera trop tard alors, et peut-être avant la prochaine Pâque, ou même cette Pâque-ci. Ne voulez-vous pas vous lever maintenant et dire, « Dieu, sois miséricordieux envers moi, un pécheur. J'accepte maintenant Christ par l'offrande de lui-même comme une expiation pour mes péchés. Et par sa grâce, et seulement par sa grâce, je demeure dans la présence de Dieu. » Voulez-vous confesser vos torts? Celui qui cache ses péchés ne prospérera pas. Celui qui confesse son péché obtient miséricorde. C'est à vous de décider. Il observe. Maintenant, notre Seigneur béni, dans le nombre prévu ce soir, se trouvent 3 âmes pénitentes, un homme et 2 femmes. Comme je pense, Seigneur, au calvaire, Lorsque l'un d'un côté a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. L'autre a dit, si c'est toi, fais-nous un miracle, retire-nous de la croix et sauve-toi toi-même. Et l'autre a dit, Dieu, sois miséricordieux envers moi. Et ta tête s'est balancée de son côté droit et tu as dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans mon royaume. Mais tu t'es tué pour l'autre parce qu'il n'y avait pas de repentance. Et Père Dieu, je prie que ceux, si peut-être, je crois qu'ils sont les trois seuls dans le bâtiment qui ressentent le besoin de confesser leur tort, mais qu'ils sont venus par le chemin entièrement suffisant, le chemin de la croix. Pardonne-leur, Seigneur, et bénis-les. Ils sont ici ce soir comme tu t'es tenu pour eux dans la salle de jugement de Pilate, comme tu t'es tenu pour eux entre les cieux et la terre, quand le soleil s'est couché et que la lune refusait de donner sa lumière et que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Je prie, Dieu, que tu les bénisses et leur accordes ta miséricorde et que tu les purifies par ton sang et baptise-les par ta puissance de sanctification dans le corps de ton propre Fils, Jésus-Christ. Alors, ils seront préservés pour tout le temps et toute l'éternité. Bénis les autres qui sentent qu'ils sont en ordre, qu'ils ont déjà connu ceci et l'ont fait. Je prie cette bénédiction pour eux au nom de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, et vous qui êtes près de ceux qui se sont levés, tendez la main et serrez la leur. Quelqu'un et dites que le Seigneur vous bénisse, c'est comme une main d'association. Nous sommes maintenant un peu en retard dans nos réunions. Combien aiment le Seigneur Jésus? Levez la main. Je me demande en silence maintenant, ou tout aussi tranquillement que possible, en commémoration de celui qui est omniprésent, qui est ici ce soir, si nous pouvons chanter doucement, « C'était à la croix où mourut mon Sauveur. Je suis venu brisé de douleur. » Là, son sang, quand vous avez rempli l'exigence, posez vos mains sur lui. Là, son sang purifia mon cœur. Et oh, à son nom la gloire. Chantons maintenant doucement comme nous inclinons la tête devant lui. À la croix où mourut mon Sauveur. Je suis venu brisé de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. À son nom, la gloire. Précieux nom. À son précieux nom, la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. Maintenant, en silence, la tête inclinée, vous qui êtes sauvés, dites, oh, levez la main maintenant, oh, précieuse fontaine qui sauve du péché. Je suis si heureux d'y être entré. Là, Jésus me sauve et me garde pur. À son nom, la gloire. À son précieux nom, la gloire. À son précieux nom, la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. Maintenant, avec les mains baissées, la tête inclinée, je viens de penser, quelqu'un a appelé il y a quelques instants et a dit que quelqu'un voulait qu'on se souvienne de lui ce soir dans la prière pour son corps. Ils ne peuvent pas revenir à la réunion de dimanche soir pour le grand service de guérison. Voulez-vous vous lever, vous qui voulez qu'on se souvienne de vous dans cette prière maintenant? Son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. À son nom. Maintenant, avec la tête inclinée, il a été blessé pour vos transgressions, meurtri pour votre iniquité. Le châtiment de votre paix était sur lui, et c'est par ses meurtrissures que vous avez été guéri. À son nom, la gloire. Maintenant, Père béni, alors qu'on s'approche humblement de la croix, où la grâce et la miséricorde m'ont trouvé, là où l'étoile brillante du matin a répandu sa lueur autour de moi, ces malades se tiennent dans ta présence. Ils croient en ce moment même que, par la foi, ils regardent ce dos meurtri là-bas. Et par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Très saint Père, nous venons confessant notre foi, croyant que tu guéris nos corps malades par la grande souffrance substitutive du Seigneur Jésus. Et nous offrons pour ces gens qui sont debout une prière de foi que tu as promis qui guérirait les malades. Et nous, ensemble, comme un bloc de tes croyants ce soir, tu as dit, là où deux ou trois sont assemblés, je serai au milieu d'eux. Et nous demandons la miséricorde pour eux, afin que ta grâce puisse maintenant toucher leur âme intérieure, que quelque chose s'ancre profondément, qu'ils sachent que Christ est ici et leur a parlé en disant « Mon enfant, j'ai porté ta maladie là-bas au calvaire. Maintenant, jette tous tes fardeaux sur moi, car je prends soin de toi et qu'il soit guéri complètement, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. » Et alors qu'ils s'assoient maintenant, quelqu'un proche d'eux imposez-leur les mains, quelqu'un qui priait pour eux. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Que le Seigneur vous bénisse. Si je ne me trompe pas, est-ce que je regarde l'homme qui a été guéri ici il y a quelques jours, ou il y a quelques dimanches, qui était sourd ou avait quelque chose aux oreilles? Je vois que vous appréciez la réunion ce soir. Vous m'entendez bien maintenant? C'est bon. Merveilleux. Levez-vous un instant. Combien se souviennent qu'il était ici? Il est passé dans la ligne de prière. On l'a amené sur l'estrade et le Seigneur l'a guéri et rétabli. Que le Seigneur soit béni. Merci, mon frère, pour votre témoignage. Il pourrait y en avoir des dizaines, mais n'est-il pas merveilleux? Maintenant, nous voulons vous voir demain soir de bonne heure. Et puis dimanche matin, tôt, dimanche après-midi, et si vous pouvez revenir pour le service de guérison dimanche soir, jusqu'à ce qu'on se revoie, levons-nous et chantons notre cantique de clôture, « Revêt-toi du nom de Jésus. »« Revêt-toi du nom de Jésus. » »« Ô toi, enfant de tristesse, il va te procurer. » Tournez-vous et serrez la main de tout le monde maintenant. Prends-le partout où tu vas. Précieux nom. Tournez-vous et serrez les mains. Nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom. Précieux nom. Nom si doux. Si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Bon, regardez par ici. Nous nous courberons devant lui. prosternant à ses pieds pour le couronner roi des rois, le voyage terminé. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre et joie du ciel. Souvenez-vous maintenant de la chorale Neuville, le quatuor diffusé le matin, WLRP à 9h, et Frère Sticker vient à 9h45 dimanche matin. Je lui ai fait une bande cet après-midi sur la résurrection. Maintenant, jusqu'à ce qu'on se revoie, que les bénédictions du Seigneur soient avec vous alors que nous inclinons la tête. Et je vais demander à mon bon ami et frère Palmer de Macon en Géorgie, s'il peut terminer la réunion par un mot de prière pendant que nous prions. Frère Palmer.